pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est un bout de nous qui disparaît avec elle. Quand on voit disparaître les alouettes ou qu'on voit disparaître des espèces de végétaux, c'est plus qu'un bout de nous qui disparaît. On fait partie de ce tout. On est un tout petit bout de ce tout.
Jean-Jacques Guillet, l'un des co-porte-parole de Bassines non merci et des soulèvements de la Terre.
Les fourmis nous survivront, la nature nous survivra. On n'est rien du tout là-dedans. Nous. On ne l'a pas compris. On imagine qu'on maîtrise tout, on ne maîtrise rien. On n'était pas là les premiers. Quand on représente l'humanité sur une pendule, c'est inexistant. Et on a été capable, en moins d'un siècle, de tout bousiller. On a été capable d'empoisonner le ciel, les sols. On a été capable de créer le nucléaire avec des capacités de destruction de la Terre entière. Il n'y a pas de quoi être fier, non.
Jean-Jacques Guillet, on l'a rencontré le 4 mars 2026 devant le tribunal de Poitiers où comparaissait Julien Leguet, l'un des porte-parole de BNM, Bassines non merci. Où l'on a aussi retrouvé Hervé Auguin, l'un des porte-parole du syndicat solidaire. L'audience de ce 4 mars est lunaire. Julien Leguet est cette fois accusé, parfois sans preuve, d'avoir emprunté une pelle à grains cassés, fait des graffitis à la craie et au feutre effaçable Velleda, et toujours cette confusion entre porte-parole et organisateur, ce qui était déjà le cas lors du procès de décembre 2025, où Hervé, Julien et deux autres porte-parole étaient indûment accusés d'être organisateurs d'une manifestation interdite contre une bassine interdite depuis. Salut les amis, c'est JBD pour Polémiques et la voix off.com et pour votre radio libre préférée. 3 ans après Sainte-Soline, malgré les procédures Bayon, c'est toujours No Basaran. À la sortie du tribunal de Poitiers, on rencontre à nouveau Hervé Auguin. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Sud Solidaire
de Sèvres.
Donc nous venons de passer 3 heures dans cette salle d'audience et il a été beaucoup question de pèlerin, de Velleda.
Les petits feutres qui s'effacent facilement.
D'un graffiti à la bombe à la craie,
oui.
Rapidement effacé par les services techniques de la ville de Niort. Qu'as-tu pensé de ces 3 heures que nous devons passer ensemble?
Je crois le ressenti global de tous les camarades qui ont assisté. Moi, la dernière fois, j'étais face à la juge, j'étais à la place de Jules. Là, j'étais spectateur et j'ai trouvé une juge partiale. D'ailleurs, l'avocat de Julien, Pierre, lui a demandé d'être dans ses propos un peu plus objectifs. C'est son rôle quand même. Une avocate générale, niveau très très bas hein, en termes de l'équivalent de la plaidoirie. Puis l'avocat de la partie civile qui a fait un long hialus qui était hors sujet, qui parlait du contexte, mais c'est pas ça le sujet.
Qui en parlait mal en plus. Hein,
oui.
Les bassines, c'est formidable, voilà. C'est pour vous agréer.
Il y a beaucoup d'approximations, voire de mensonges, mais bon. Pierre Hurier, l'avocat de Jules, il a recadré le sujet et puis il a démontré que soit il n'y avait rien, soit il y avait presque rien. Ils étaient à côté de la plaque, quoi. Voilà, on a une nouvelle image de la répression, c'est-à-dire la saturation judiciaire. On convoque. Les enquêtes sont malmenées par la police. Il y a une photo où on voit rien, mais c'est peut-être Julien.
Qu'aurait fait le tag.
Là, il y a une pelle qui est cassée, qui leur est volée. Bon, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire.
On pourrait parler de harcèlement, d'étouffement, d'épuisement.
Mais ça fait partie du schéma répressif, je pense, hein, qui est en face. Il y a des gens qui ne savent pas répondre sur le fond. Alors, ils essayent de nous empêcher de nous exprimer sur la forme, en convoquant sur des dossiers où qui sont creux, quoi. Alors, aujourd'hui, c'était particulièrement visible et évident.
Et on retombe aussi sur un débat qu'on a eu le 3 décembre dernier dans ce même lieu, où là tu étais convoqué avec 3 autres, donc des soulèvements de la Terre, de la CGT et Julien. Et on retombe en fait sur cette confusion entre le rôle de porte-parole d'une organisation, c'est-à-dire celui ou celle dont la tête dépasse, et organisateur ou organisatrice. Donc là, en l'occurrence, Bassines non merci, c'est la tête de Julien Leguet qui dépasse parmi les têtes d'autres porte-parole. Et on transforme le porte-parole en organisateur et en grand chef. Une espèce de logiciel, il faut qu'il y ait des chefs.
Ça, c'est révélateur.
Et de choc de culture.
Oui. Le problème, c'est que ça a des conséquences en termes de droit. Quand vous avez en face de vous des prises de décision très verticales, comme c'est le cas à la préfecture ou à la gendarmerie ou à la police, ils n'envisagent pas que en face d'eux, ils peuvent avoir des organisations, des syndicats, des collectifs dont la position est horizontale.
Tu es en train de dire que tu n'es pas le chef de Solidaire.
Non, puis ça m'embêterait. Mais ça, c'est un vrai sujet. Après, effectivement, organisateurs, porte-parole, participants, ça a déjà été un peu jugé parce qu'on a été condamnés par la cour d'appel, hein, David, moi, pour Solidaire et la CGT. Je me suis pourvu en cassation, donc j'espère que ce biais-là me permettra d'être innocenté. Et puis, le sujet de fond, c'est toujours, et ça reste toujours, la liberté de manifester et la liberté d'expression. C'est un sujet fondamental. La France, avec tout ce qui s'est passé dans le cadre de la lutte contre les méga-bassines, pas simplement dans ce cadre-là, mais notamment dans ce cadre-là, se fait taper sur les doigts, le pays, la France, se fait taper sur les doigts par rapport à la liberté d'expression, la liberté de manifester qu'elle est censée encadrer sur le territoire par des structures internationales comme notamment la FIDH, mais aussi, je crois que l'ONU avait posté des alertes en disant « Attention, l'État français, c'est pas bon. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, en tous les cas. » On le voit, hein. Les camarades qui sont convoqués en appel pour Sainte-Soline 2, ce sera aussi le sujet, effectivement un sujet grave, qui est le maintien de l'ordre, et puis les violences policières, qui est un sujet fondamental aussi, et qui doit, avec tout ce qu'on voit, pas simplement dans le cadre de la lutte contre les méga-bassines, est tragique, quoi. Mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui.
C'était le procès, effectivement, d'un des porte-paroles de Bassines Non Merci.
Oui. En la présence... Un des porte-paroles, effectivement.
Par extension, on assiste aussi à une répression du mouvement syndical. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de taper sur la tête des écolos, mais de tout ce qui bouge, de tout ce qui conteste, et évidemment des syndicats.
Oui, alors nous, on fait partie de ces structures qui contestent, qui ne sont pas d'accord avec ce que portent les politiques depuis des années, hein, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental. Mais je vais prendre un exemple. On porte des valeurs, des luttes internationalistes. Nous, à Niort, on est dans le collectif Palestine. Tous les samedis, en solidarité avec le peuple palestinien qui est génocidé depuis plusieurs mois, on se réunit. On lutte pour l'autodétermination, la liberté des peuples à choisir. On est culpabilisé, on est traité d'antisémite parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique sioniste, suprémaciste actuelle portée par le gouvernement israélien. Et on voit qu'ils veulent légiférer pour que, quand on est antisioniste, y a un égal avec antisémite. On n'est absolument pas d'accord avec ça, évidemment, et on trouve ça scandaleux. Ça fait partie de la répression, une des répressions qu'on subit.
Retour au cauchemar des méga-bassines, c'est pas seulement en Poitou-Charentes, des bassines, il y en a en projet ou déjà à l'œuvre partout sur le territoire national, et notamment dans l'Hérault, d'où vient Stan, de Bassines Non Merci 34, contre les bassines et aussi contre un embouteilleur d'eau. Bonjour Stan.
Bonjour. Je suis de Bassines Non Merci 34, Coordo 34, collectif qui luttons contre les projets de méga-bassines en Hérault, mais également contre le projet d'usine d'embouteillage à Montagnac. Et on s'intéresse aussi à la question de la qualité et de la quantité d'eau en Hérault.
Quand tu dis Coordo, coordination de plusieurs acteurs, Confédération Paysanne, gens comme ça?
Oui, on est peut-être une trentaine de signataires. Il y a autant des partis politiques que des... syndicats, que différentes organisations un petit peu en tout genre, mais aussi des citoyens, des citoyennes, toute personne intéressée peut nous rejoindre. Et notre objectif, en fait, c'est de se coordonner d'abord à l'échelle du département. Donc on essaie de faire un triangle entre l'Odève, Montpellier et Béziers, essayer de se coordonner avec les départements alentours. En fait, sur le pourtour méditerranéen, on va dire déjà le golfe du Lion avec le Gard, l'Hérault et l'Aude, on a des problématiques très similaires par rapport à aux pénuries d'eau et aux problèmes de qualité d'eau.
On parle peu de l'embouteillage, une industrie épouvantablement polluante, pareil, qui s'accapare un commun vital qui est l'eau, qui en plus pollue avec le plastique.
En Hérault, il y a un Montagnac, donc un projet d'usine d'embouteillage, porté par le groupe Alma CGES, donc en fait c'est Vichy, Saint-Thior, Cristalline, et ils ont le projet d'utiliser un ancien forage de 1500 mètres de profondeur pour installer à côté une usine de 15 000 mètres carrés qui produirait plus d'un million de bouteilles d'eau par jour, avec tous les allers-retours de camions qui vont avec, donc à peu près 80 allers-retours de camions sur des petites routes de campagne, on va dire. Tout ça au-dessus de la lagune de Thau, qui est un des principaux bassins producteurs d'huîtres en France. Et on imagine un peu les pollutions que tout ça générerait, en plus de ce qu'il y a déjà actuellement. Nous, on s'appelle la Coordo 34. On a rejoint l'Inter-BNM, en fait. Donc, on essaye de se retrouver à l'échelle nationale avec les différents bassins non merci, en fait, qui sont répartis sur différents territoires en France. Dernièrement, on a réalisé une carte du territoire national métropolitain, faire une actualisation des différents projets de bassines entre ceux qui sont en projet, ceux en chantier, les bassines en activité, les bassines illégales, les bassines débâchées, voir où en sont les stratégies de l'État par rapport à l'installation de ces projets totalement mal adaptés par rapport aux différentes problématiques agro-industrielles, réchauffement climatique.
Y a-t-il un projet de méga-bassine dans l'Hérault ?
Il y a le schéma irrigation 2018-2030 porté par le conseil départemental de l'Hérault. Ils ont eu l'idée au départ de construire 22 bassines en Hérault qui seraient alimentées par l'eau du Rhône via le canal Philippe Namour qui transfère l'eau du Rhône jusqu'au port de Montpellier, puis ensuite le projet Aqua Domitia qui est une conduite d'eau qui amène de l'eau jusqu'à Narbonne. Donc ça traverse, on va dire, du Gard jusqu'à l'Aude en passant par l'Hérault. Et c'est une conduite avec beaucoup d'adducteurs d'eau qui permettent d'irriguer des cultures ainsi qu'apporter de l'eau potable, enfin qu'il faut potabiliser. Ce tuyau a vu le jour ces 10 dernières années. Il faut bien le rentabiliser. Ce serait de construire des méga bassines. Au départ de 22 bassines, aujourd'hui, il n'y a plus que 4 projets de bassines, dont seulement 2 actés pour une construction immédiate. Et si les projets advenaient, il y aurait une construction en 2028.
Donc là, il ne s'agit pas de pomper l'eau des nappes phréatiques, mais de détourner celle du Rhône.
Le conseil départemental met en avant cet argument. Ce ne sont pas des bassines, mais des retenues hivernales. Pas question de prendre la nappe phréatique, mais dans la ressource du Rhône en hiver, avec la fonte des glaciers, où en fait le débit du Rhône en hiver est vraiment énorme, et l'eau qui serait ponctionnée serait infime en comparaison de la quantité. Mais le département argumente aussi sur le fait que cette eau ne serait pas perdue à la mer. Donc ils n'ont pas très bien compris comment fonctionnent les différents cycles de l'eau, avec la question des zones humides, ce genre de choses. Et surtout, le delta du Rhône au niveau de la Camargue est en train de se remplir de sel, de vase. C'est une catastrophe écologique majeure qui est en cours.
C'est un truc qui a pu être observé aussi sur la Loire. En fait, c'est quand le débit est moins fort, du coup, c'est l'océan, l'eau salée qui rentre dans les terres, qui donc les stérilise. Enfin, il y a eu un moment d'ailleurs où on a craint en région nantaise de plus pouvoir boire l'eau du robinet parce qu'elle aurait été saumâtre. C'est ça que vous craignez, vous, avec le Rhône aussi.
C'est une problématique où le biseau salé, donc la quantité de sel qui rentre, va jusqu'à plus de 60 km dans les terres. Et on trouve même des dorades au niveau de Beaucaire, à des dizaines de kilomètres dans le fleuve. Mais nous, en ce qui concerne l'Hérault, en fait, cette eau serait destinée donc à remplir 2 mégabassines qui feraient 940 000 m3 et 770 000 m3. En comparaison, Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, c'est 650 000 m3. Là, on est en fait sur quasiment des gigabassines qui atteindraient le million de m3. Et toute cette eau servirait notamment à la production de raisins pour une production viticole. Parce que dans les régions où sont implantées les mégabassines, 85% des terres cultivées sont de la vigne. En Hérault, la vigne est en surproduction. En 2020 et 2023, il y a eu 200 millions d'euros déboursés de subventions publiques pour distiller l'excédent en vin. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. 200 millions d'euros à l'échelle nationale par deux fois. Et en 2023 et donc 2024 pour les subventions, 88 millions d'euros étaient destinés au Languedoc-Roussillon, dont 45 millions pour l'Hérault. En sachant qu'aujourd'hui, les caves où le vin n'a pas pu être distillé, donc l'alcool blanc sert après aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et d'autres, le vin est toujours en fait dans les caves coopératives. Le département explique qu'il y a beaucoup de vignes sur ces terres, mais que la vigne face au réchauffement climatique ne pourra pas tenir des décennies. En parallèle, il faut en fait diversifier les cultures. Donc le département prône le fait que l'eau servira à diversifier les cultures. Quand on leur demande précisément où, quand, comment et combien il y aura de diversification, c'est quelques hectares par-ci et puis après. En tout cas, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de diversification. Mais on voit bien que les méga-bassines sont destinées à une minorité d'exploitants qui ont les moyens d'accéder à cette eau et que tous les autres en fait ne l'auront pas. Entre 70 et 85% de l'eau sera destinée à la viticulture. Donc en fait, les méga-bassines en Hérault servent à entretenir un modèle agro-industriel viticole qui se base sur des estimations. La consommation de vin est en baisse, les exportations internationales sont en baisse et la vigne est en surproduction. Dans cette contradiction majeure, la logique du département et de la région, c'est de mettre des méga-bassines.
Est-ce que c'est un vieux projet ? Comment est-ce que toi, par exemple, tu en as eu vent ? Qu'est-ce que votre collectif a pu faire déjà contre ?
La Cordeau 34 s'est créée suite à Sainte-Soline 2 en mars 2023. On s'est créé en juin 2023. j'ai découvert le sujet à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, les bassines s'inscrivaient dans un schéma d'irrigation beaucoup plus large, avec notamment le projet Aqua Domitia. C'est le tuyau qui traverse l'Hérault et jusqu'à l'Aude et qui ramène l'eau du Rhône. Et donc ce tuyau qui a été construit ces 10 dernières années a besoin d'être rentabilisé et sert en fait ce genre de projet d'irrigation. La région a porté ce projet en se disant que grâce à cette eau, pourrait sauver la région. Donc effectivement, il peut y avoir des avantages sur le fait que on a moins de problèmes d'eau que dans les Pyrénées-Orientales par exemple, ou dans l'Aude. Mais en fait, on est complètement dépendant de la ressource du Rhône qui va, avec le réchauffement climatique, s'amoindrir dans les années qui viennent. Et un projet qui traverse un département en séparant le littoral des débuts des montagnes des Cévennes coupe en fait un territoire en deux. Donc toutes les logiques par bassin versant, de réflexion de comment aménager les territoires le plus intelligemment possible pour retenir l'eau qui tombe annuellement, parce qu'il tombe de l'eau en Hérault à peu près, on va dire, entre 500 et 600 mm d'eau par an, on pourrait la retenir avec peut-être des retenues collinaires. Après, c'est en fonction du type de sol, de la géologie, en fonction du type de relief. Il pourrait y avoir des réflexions plus intelligentes qui mettent en relation les acteurs sur le terrain. Sauf que là, en fait, c'est un gros tuyau qui passe, qui est géré par une entreprise semi-privée au service de la région et qui va permettre d'approvisionner en eau une minorité d'acteurs qui sont les plus gros exploitants et qui vont ensuite pouvoir, comme d'habitude, racheter les terres des plus petits exploitants avec une logique d'accaparement foncier, d'accaparement d'eau, une logique capitaliste comme on les connaît bien.
Oh, une production agricole dont on n'a pas besoin.
En plus de ça. La crise viticole, en fait, touche bien plus que les agriculteurs, puisque on parle vraiment de la configuration des territoires. Et aujourd'hui, il faut revoir impérativement soit la question de la transition agricole, parce que si on veut pouvoir s'adapter au réchauffement climatique pour 2050, il faut dès maintenant mettre en place de nouvelles filières qui mettront entre 20 et 30 ans à se mettre en place, avec toute la logique de régénération des sols, où après des décennies, voire plusieurs siècles de monoculture intensive en vigne, la qualité des sols laisse à désirer. Surtout s'il y aura un sol de garrigue où il y a très peu de sol. Si en tout cas il faut mettre des choses en place, il faut les mettre dès maintenant.
Du coup, vous, la Cordeau, vous agissez comment ?
On essaie de sensibiliser autant qu'on peut. On produit de la documentation qu'on met en ligne ou sinon sous forme de 4 pages de brochures qu'on distribue. On organise des manifestations. On en a fait une le 24 mai 2025 à Montpellier où il y avait une quarantaine de signataires. Et on l'a co-organisé avec différentes organisations alliées. On essaye aussi de sensibiliser au sujet. Pour être sensible à quelque chose, il faut se représenter cette chose. Sauf qu'en fait, les questions d'eau aujourd'hui sont assez marginales, à part le fait où la propagande du département dit souvent s'il est limité la consommation d'eau en faisant pipi sous la douche. Quand on voit comment l'eau est gérée au niveau soit industriel, soit agricole, on se rend compte que dès que le département peut éviter de parler de viticulture, eux, ça les arrange. Donc nous, on essaie justement de sensibiliser le plus possible sur ces problématiques. Aujourd'hui, on va dire, il y a encore en majorité de l'eau au robinet partout en Hérault. Donc dans certaines petites communes, dans les hauteurs de l'Hérault, il y a des pénuries d'eau qui peuvent durer tout l'été.
Ça veut dire quoi, camion-citerne qui vient livrer l'eau aux habitants ?
Oui, camion-citerne. Donc après, on est encore dans des logiques où des acteurs publics peuvent apporter de l'eau avec des formes d'entraide entre les collectivités. Mais quand on voit comment ça se passe, par exemple en Sicile, où il y a des pénuries d'eau monstres avec des acteurs privés qui commencent à apporter de l'eau aux plus offrants, on se dit que dans 10 ans, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans de telles situations. Et donc, on essaie de sensibiliser à ces problématiques, que ce soit en politisant la problématique, donc pas juste des actions individuelles, mais des actions collectives, concertées, les plus démocratiques possibles, et en expliquant bien aux gens qu'en fait, aller à une concertation publique organisée par le département, c'est juste, on vous a entendu, mais on va quand même faire ce qu'on veut. Si vous posez des questions un peu gênantes, on va expliquer qu'on ne peut pas discuter avec vous, parce que vous n'écoutez pas les arguments du département, vous abondez pas dans le sens des pouvoirs. Et donc après, on essaie de s'informer en lisant des rapports autant scientifiques que comment avoir des actions juridiques. Et puis après, on verra au fur et à mesure du projet à quel degré d'intensité faut monter.
Donc tout ce que tu viens de livrer, c'est qu'il y a déjà, et depuis quelques années, sur le territoire métropolitain, des endroits et des moments où l'eau n'arrive plus au robinet.
Oui, dans les hauteurs de l'Hérault, il y a vraiment ce genre de problème où Donc il y a eu différentes choses, soit c'est vraiment la source qui se tarit, soit c'est une pollution qui débarque d'on ne sait pas trop où, et c'est très difficile de savoir exactement. À Saint-André de Saint-Gonis, c'est un village, pendant 2 ou 3 semaines, la mairie a distribué un pack d'eau quotidien à chaque personne. Parce que l'eau d'un coup est devenue du jour au lendemain impropre à la consommation. Quand on fait des recherches sur Internet, c'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé.
Vous faites des réunions d'information auprès des citoyens, citoyennes, du public ?
On fait des réunions de temps à autre. Bah, comme tout ça en fait est assez nouveau, il faut comprendre un peu les logiques du département, de la région, dans quel cadre socio-historique et politique s'inscrivent les projets de bassines. On essaie d'abord de se documenter pour avoir le plus d'informations. Et après, on essaie d'informer les gens en y allant petit à petit.
Et les quelques fois où vous l'avez fait, comment les gens reçoivent-ils l'information ?
Bravo, continuez. Ouais. Bah, souvent, en fait, les gens sont très intéressés parce que c'est des problématiques. Autant les bassines, en général, ont été très mises sur le devant de la scène avec Sainte-Soline. Donc, les gens sont plutôt au courant du mot méga-bassine. Après, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? L'agro-industrie, le modèle, le business agro-industriel. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. La problématique viticole est assez spécifique à l'Hérault, donc là, c'est encore autre chose. On n'est pas sur des grandes surfaces céréalières ou de maïs, on est sur des petites parcelles viticoles. Et après, la problématique avec l'eau, en fait, c'est le côté comprendre les logiques institutionnelles de l'eau. C'est un millefeuille administratif, ça peut être rebutant au début. Et après, il faut rentrer dans des logiques de collectif où on co-construit ensemble, c'est sur le temps long, en fait. Mais tout ça se construit et on est là. On attend en fait le dossier d'étude d'impact environnemental autour des méga-bassines qui va définir le cadre de la concertation publique qui va suivre. Donc là, on se prépare en fait au tout début de la lutte, en sachant qu'il y a eu d'autres projets autour de Montpellier, par exemple un périph' autoroutier où il y a eu une concertation publique avec 82% d'avis défavorables, une étude d'impact environnemental défavorable, et le maire de Montpellier ainsi que le préfet ont dit on continue, on impose le projet, et aujourd'hui il y a un énorme trou dans la garrigue avec ce périphérique autoroutier qui est en train de se construire. Donc on n'est pas naïf sur le fait que le conseil départemental va savoir retourner la chose comme il faut pour imposer ces méga-bassines. Et donc à partir de là, on va continuer de se renseigner, on va prochainement, dans les mois qui suivent, quand on aura plus d'infos, faire une nouvelle réunion publique et construire au fur et à mesure.
Il faut aussi avoir le courage de se mettre le nez dans le jargon juridique, scientifique, apprendre des nouvelles choses, parler la bonne langue devant des instances. Ça, c'est du temps de cerveau disponible aussi, comme disait l'autre.
Ah, moi, je dis souvent, je connaissais rien à tout ça en arrivant et après, j'adore me documenter. Et le temps de la lutte concrète, physique, si on parle de ZAD ou ce genre de choses, ça viendra dans un second temps. Là, pour l'instant, on en est vraiment au tout début de la lutte. Et justement, le fait de monter l'inter-BNM en parallèle, ça permet en fait de rencontrer des personnes qui sont déjà passées par là. Bah, ça sert en même temps de modèle, ça sert d'entraide. C'est essentiel, effectivement, quand on commence à être un petit peu fatigué avec un petit coup de blues, ça remonte le moral et c'est reparti, quoi.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 7 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 7 bassines derrière chez moi, mais
il n'y
en aura pas une.
Il y a 7 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une. De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
4 mars 2026, dans la cour du tribunal de Poitiers, lui aussi venu assister à cet énième procès de Julien Le Guay. Il y a cet homme que vous aurez peut-être vu témoigner dans le film Soulèvement, et on l'aura aussi vu en vidéo dans une alerte de catastrophe depuis le lit d'une rivière assassinée. à sec et dont les poissons avaient le ventre à l'air.
Bonjour, je suis Jean-Jacques Guillet, un des porte-parole de Bassine Non Merci, au même titre que Julien. Tout ce qu'on lui reproche, on devrait me le reprocher à moi aussi.
Donc tu serais potentiellement aussi auteur de ce graffiti à la craie sûr, et du vol de cette pelle à grains cassée.
J'étais présent, je me déclare coupable de cette pelle à grains cassée, qui d'ailleurs n'a pas été volée puisqu'elle est restée sur place. C'est bien parce que si cette fameuse coopérative se remet à travailler avec une pelle à grains, ça veut dire que... ils sont passés à un stade où ils deviennent plus raisonnables. Je ne pensais pas qu'ils utilisaient encore des pelles à main.
Tu as aussi été élu dans ton parcours.
Dans mon parcours, oui, j'ai bientôt 75 ans, donc je commence à avoir effectivement un parcours. J'ai été maire de ma commune pendant 19 ans. Une commune du Marais Poitevin, la commune d'Amuret. C'est à côté de la Garette, de Coulon, Saint-Hilaire, Mauzé. Élu maire de cette commune pendant 19 ans, élu pendant 33 ans, vice-président de l'agglomération niortaise, président de la régie des déchets. Les déchets, ce n'est pas le même dossier clos, mais il y a beaucoup de points communs. On retrouve un peu les mêmes lobbies. C'est une partie de mon parcours, oui.
Alors évidemment, Bassine Non Merci, on parle beaucoup des bassines, mais finalement ce n'est hélas qu'une porte d'entrée vers ce qu'on appelle l'agro-industrie, le capitalisme, le colonialisme et tous les mots qui vont avec. Quand prends-tu conscience que nos campagnes vont mal ?
Très tôt, certainement dès l'âge de 20 à 25 ans, même si à cette époque-là on est plus préoccupé par... ce qui va devenir peut-être sa carrière ou sa formation. Je suis de la génération ou la fin de la génération des Trente Glorieuses, quoi. Je suis de ceux qui voient arriver les remembrements quand j'ai une douzaine d'années. Et les remembrements, c'est un premier traumatisme dans la mesure où c'est le moment où le terrain de jeu de mon enfance sont brûlés et partent en fumée dans l'indifférence générale. Et puis une fois que je suis ado, vers 15-17 ans, c'est les zones humides qui commencent à trinquer, les rivières qui sont massacrées. Donc j'avais pris une carte de pêche, mais je suis vite calmé. Et c'est à cette période-là aussi que je vois disparaître un monde... Mon grand-père était paysan. Mes premières années, c'est à la ferme. Je vois disparaître un modèle d'agriculture, d'agriculteur, de paysan qui vivait en harmonie avec le milieu, qui respectait à la fois le milieu et qui en même temps avait su s'adapter à ce milieu. Je me souviens qu'on commençait à dire à cette époque-là, le Poitou-Charente, c'est quand même pas la Beauce, il faudrait pas transformer le Poitou-Charente en Beauce. Et on était en train de le faire. Et puis on a continué et malheureusement, je me suis souvent dit que ça allait s'arrêter à un moment donné, mais non, ça ne s'arrête pas. Ils remettent en permanence des pièces dans la machine. On continue d'arracher plus de haies qu'on en plante, même si on commence à dire qu'il faudrait planter. Il faut rester optimiste, mais c'est quand même un peu tard. On est en train de subir aujourd'hui, et dans notre région, le réchauffement climatique, on n'en est pas les seuls responsables, mais dans notre région... ces fameux aménagements qui ont été faits et qui continuent de se faire aggravent encore plus le réchauffement climatique. Il serait temps d'enfin arrêter la machine et de calmer ce modèle agricole, cette industrie, puisque ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie, qui est en train d'empoisonner ces anciens agriculteurs, qui est en train d'empoisonner notre avenir, qui empoisonne la planète dans son ensemble et qui empoisonne nos enfants. Qui fait que des jeunes aujourd'hui s'interrogent sur leur avenir. Est-ce qu'on doit faire des enfants ? Est-ce qu'on va mourir dans notre lit, nous ? C'est pas sûr. Hein ? J'en veux beaucoup aujourd'hui aux politiques. J'ai compris pendant ma carrière d'élu que les politiques étaient les premiers responsables de tout ça. À chaque fois, ce sont des choix politiques. Partout où il y a des pouvoirs de décision, les lobbies sont là, de la commune jusqu'au ministère. Tant que les élus ne seront pas en capacité de faire le ménage, de virer ces parasites, et j'ai rien contre les parasites, mais ceux-là, ils sont en train de mettre à mal notre avenir. Donc il faut les arrêter. Il faut absolument les arrêter. De toute ma carrière d'élu, en permanence, je me disais, mais on est là pour défendre l'intérêt général. Les élus, quand ils sont dans des logiques comme celle-ci, ils ne défendent pas l'intérêt général. Ils défendent des intérêts particuliers. Avec de l'argent public, souvent. quand on revient sur le dossier des bassines et qu'on commence à regarder un petit peu les communes qui sont concernées par des bassines, on s'aperçoit que là, on est dans des conflits d'intérêts pratiquement à chaque fois. Sur la première tranche des 16 bassines de la Côte de l'Eau, les 6 communes retenues pour la première tranche, c'est des communes où les élus sont pro-bassines. Mosée, c'est le premier adjoint qui voulait sa bassine. Épane, c'est Madame le maire, qui sera plus maire puisqu'elle s'arrête maintenant, mais qui a obtenu une bassine pour elle, pour son fils et pour son premier adjoint. C'est pareil à Sainte-Soline, c'était pareil à Épane, où c'est le président de la FNSEA 17 et 79 qui réclamait sa bassine. Ferrières, c'est Servant, président de la FNSEA Charente, et Charente-Maritime aussi. À La Laigne, c'était Boucard, président de la coordination rurale. Chaque représentant syndical a sa bassine à lui, financée avec de l'argent public. C'est quoi ça, si c'est pas du détournement d'argent public et de l'ignorance de l'intérêt général?
Alors quand tu dis représentant syndical, faut entendre membre de la FNSEA. On dit que c'est un syndicat. Syndicat, c'est bien, ça fait gauche, ça fait lutte des classes, machin, mais en fait, c'est pas un syndicat, c'est maître d'œuvre des lobbies au service de l'agro-industrie, des marchands de chimie, des marchands de machines.
Ce sont des mafieux, fonctionnement mafieux. Ils sont effectivement implantés partout. Quand j'étais élu, par exemple, au sein des communes, quand ces agriculteurs-là se présentent, ils ne se présentent pas pour défendre l'intérêt général. Ils se présentent pour être dans les commissions, et dans les commissions syndicats de rivière, syndicats d'eau, syndicats de marais, commission des impôts quand même aussi pour payer un minimum de taxes foncières. Ils viennent défendre l'intérêt de la famille ou leurs propres intérêts, les intérêts de leur syndicat. Mais ils ne s'intéressent pas à l'école, c'est pas leur problème. Le social, c'est pas un truc, ça, non, non. Dans les années 80, c'était un des mots d'ordre de la FNSEA, il fallait être partout où il y avait des pouvoirs de décision. Et ils sont partout. Le cancer, les métastases sont partout. La pieuvre est partout. Au ministère, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer des élus, des députés, des sénateurs, de visiter l'Assemblée, bon... Les bureaux de ces lobbies sont à côté des bureaux des sénateurs, des députés. Ils sont là. Veolia, la FNSEA, Vinci, ils sont tous là. Pourquoi ils sont là? Pour défendre leurs intérêts, des intérêts privés. Et ils vont piquer l'argent public, en plus, pour développer leurs projets. Ça n'est que ça, de la commune jusque là-haut.
Alors là, tu parles d'une poignée d'individus qui s'engraissent avec de l'argent public et au détriment du commun, du bien commun, de l'eau, de la terre. Il faut aussi comprendre que beaucoup d'exploitants agricoles qui sont à la FNSEA sont des victimes de la FNSEA. D'ailleurs, la FNSEA affiche dans ses objectifs de réduire le nombre d'exploitations agricoles pour qu'il n'y ait plus que des fermes-usines. Et donc, Bassine Non Merci notamment, mais les soulèvements aussi, insistent beaucoup là-dessus. L'agri n'est pas l'ennemi. Il faut aussi voir l'agri comme une victime de cette mafia.
C'est une évidence, c'est une évidence.
C'est facile à expliquer.
C'est difficile pour eux de reconnaître qu'ils sont manipulés, mais il est certain qu'aujourd'hui, le vrai problème de fond de l'agriculture, je ne vais pas le résoudre aujourd'hui, mais c'est que des gens travaillent et ne vivent pas de leur travail. Pourquoi ils ne vivent pas de leur travail? Parce qu'ils ont pu la main, dès le début, sur la céréale qu'ils vont semer. Ils ne peuvent même pas récupérer une partie de leur récolte pour ressemer. Ils doivent passer par la coopérative. Donc il va falloir qu'ils payent leurs semences. Dans un deuxième temps, on leur a imposé... Pour certains, ils y sont allés gaiement quand même en croyant qu'ils allaient réussir à bouffer leurs voisins. On leur a imposé un modèle qui fait qu'aujourd'hui, ils choisissent pour leurs céréales. On a spécialisé tous les métiers. Ils ne peuvent plus faire de la polyculture. Ils ne peuvent plus avoir une activité en équilibre avec un peu d'élevage et un peu de céréales pour nourrir les animaux. La polyculture, on l'a abandonnée pour spécialiser. Soit on est éleveur hors sol dans des usines à merde, soit on est céréalier et rien que céréalier. Déjà, ça les fragilise parce que quand une année était mauvaise avec les animaux, on se rattrapait sur les céréales ou inversement. Déjà, ils deviennent beaucoup plus dépendants. Donc, encore une fois, ils vont aller chercher leurs grains, ils vont aller à la coopérative puisqu'ils ne font plus cette rotation, ils n'ont plus l'amendement des animaux pour acheter l'engrais. La coopérative va vendre l'engrais. Ensuite, la coopérative va leur vendre, maintenant au printemps, là, il commence à y avoir un peu de rosée, on va vendre le fongicide. Après, on va vendre l'herbicide. Après, on va vendre l'insecticide. Maintenant, on va devoir acheter l'eau, C'est plus eux qui définissent le prix. Donc là, ils sont à la merci, à la dépendance de la coopérative qui se porte bien. Les coopératives se portent très bien. Et c'est d'ailleurs elles aussi qui sont derrière les bassines. Et puis après, la deuxième phase de leur activité, c'est la vente. C'est plus de la vente directe, c'est directement Leclerc et tous les autres et toute la clique qui vont définir le prix des marchandises. Et donc, ils vont devoir vendre à perte. Ils vont devoir vendre un produit qui n'est plus un produit, qui est de la merde la plupart du temps, puisqu'il est empoisonné par tous les bouts. Hein. Ils vont le vendre à l'agroalimentaire, qui vont fixer, eux, les prix. Et il va s'étonner à la fin du compte qu'il ne lui reste plus rien. Une fois qu'il a payé la coopérative et qu'il a bradé ses produits à l'agroalimentaire, il ne lui reste plus rien. Ben oui, il ne lui reste plus rien, parce qu'il faut qu'il reprenne son indépendance.
T'es passé par tous les produits chimiques qui donnent le cancer, l'Alzheimer et tout ce que tu veux. Rappelez aussi que les premières victimes de cette chimie sont les exploitants agricoles eux-mêmes.
Ce sont eux. Les paysans sont devenus des exploitants et les exploitants maintenant sont exploités. Et parmi eux, il y en a forcément quelques-uns qui sont devenus, comme ils disent, des agri-managers parce qu'ils ont réussi à s'agrandir en bouffant leurs voisins. Mais la grande majorité d'entre eux sont devenus des commis agricoles, rien que des commis agricoles, qui n'ont pas la main sur leur avenir, absolument pas. Et qui sont malheureux et qui sont les premiers à être empoisonnés, effectivement, avec ces fameux produits.
Sans parler du taux de suicide extraordinaire qu'il y a dans cette profession.
Exactement, mais c'est une pression infernale. Les vrais coupables, ce sont encore une fois ces élus, qu'ils soient sénateurs ou députés, qui, eux, soutiennent le glyphosate, soutiennent les pesticides, les herbicides, le fameux du plomb, là. C'est quand même assez incroyable quand on sait en plus ce qui touche d'aide publique et de l'Europe. Je ne pourrais pas me promener dans la rue si j'avais ça sur moi. Ils devraient avoir honte, ces gens-là. Je serais peut-être un peu méchant, mais je pense qu'on devrait les condamner ou les obliger à boire un verre de glyphosate tous les matins, quoi. Je ne souhaite pas les tuer, mais au moins commencer à les rendre malades pour qu'ils se rendent compte à quel point ils sont ignobles, quoi.
Question à laquelle il n'y a probablement pas de réponse ou beaucoup de réponses possibles. Comment on s'en sort ? Faudrait désarmer cette FNSEA, ces coopératives, permettre à des jeunes... Parce que la terre aussi, elle est devenue intouchable pour des jeunes qui n'ont pas trop de sous. Les exploitations, elles sont de plus en plus grosses. Les jeunes ne peuvent pas accéder à la terre.
C'est très difficile d'en sortir. En plus, ces lobbies, ils ont les moyens de faire pression. On ne peut pas se sortir de la coopérative comme ça. On ne peut pas se sortir de l'agroalimentaire comme ça. On ne peut pas redevenir indépendant comme ça. Ce qu'on voit dans le film Soulèvement, il va falloir à un moment donné, mais la nature va nous l'imposer, il va falloir revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, c'est revenir à la proximité, revenir au bon sens. Parce que le bon sens paysan, il y avait un slogan du Crédit Agricole qui l'avait sorti, le bon sens près de chez vous. C'est-à-dire que le bon sens du paysan était passé au Crédit Agricole, parce que je n'ai pas parlé des banques, mais dans les lobbies, ils sont là aussi, hein, pour leur vendre du matériel dont ils n'ont pas besoin. Et quand on écoute Macron, ça serait l'avenir de l'agriculture que d'informatiser. Non, c'est... Revenir aux fondamentaux, et ces jeunes et beaucoup d'agriculteurs de la Conf en particulier qui reviennent à la proximité, qui reviennent à une production saine, propre, sans la coopérative. Mais il faut qu'ils aient le soutien des consommateurs. C'est en train de s'organiser. Le bio en est un exemple, mais bon, il faut aller encore plus loin. Il faudrait déjà arrêter sur le plan politique cet objectif-là, que l'agriculture devienne une industrie d'exportation. L'agriculture, ils sont là pour nous nourrir, donc qu'on nourrisse les gens. Ici, on est en Poitou-Charentes, eh bien, on fait une agriculture adaptée au Poitou-Charentes, au sol, au climat, aux régions. Et on nourrit en priorité les villes et les villages qui sont à proximité. Si on a du surplus, effectivement, on peut commencer à faire du commerce et à faire des échanges. Ce n'est pas interdit, ça a même été toujours de tous les temps. Mais on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier et tout mettre dans l'exportation. Aujourd'hui, les agriculteurs, contrairement à ce que disent les élus, nos agriculteurs, ils ne nourrissent pas. Ils sont dans un modèle où l'important, la priorité, c'est l'exportation. Et le Poitou-Charentes en est un exemple avec le port de la Palisse. On pourrait faire dans le marais du maraîchage, des légumes, et nourrir Poitiers et toutes les villes autour, La Rochelle. Non, on importe nos légumes, on importe nos fruits, alors qu'on a la possibilité, on a les terrains, le climat, pour tout faire sur place. C'est absolument incohérent, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. De toute façon, on est au bout du bout. Hein. On est au bout du bout au niveau des pollutions de l'air, des sols, de l'eau. Je viens de lire un bouquin qui a été écrit par le doyen de la faculté d'Angers, ce que le réchauffement climatique va faire à l'Europe. Bien, ça va saigner. Ça a déjà commencé. On va se retrouver dans une situation où, sur le plan mondial, ça a déjà commencé au niveau des conflits. Je ne veux pas parler de fin du monde, mais alors c'est 2/3 de la population qui est condamnée à disparaître assez rapidement, avec un dernier tiers où c'est Mad Max. Hein, on est dans le dernier endroit où on peut encore cultiver et se nourrir, mais c'est la guerre quand même. On va arriver à un moment donné où les endroits où on pourra encore cultiver pour nourrir les populations vont se réduire. On va arriver à des situations où le sud va être trop sec et le nord va être trop froid ou trop mouillé. Et tout le monde va devoir se retrouver dans une bande le long de l'Atlantique. Là. Il parle beaucoup de basculement. On parle de El Niño qui commence à repointer son nez. On parle du Gulf Stream, de modification de la température de l'eau, parce que l'eau de mer monte, ça peut être inquiétant, mais ce n'est pas ça le plus grave. C'est sa dégradation et son réchauffement. Le réchauffement de l'eau fait que le Gulf Stream, à un moment donné, il s'arrête. Et le climat tempéré qu'on a là, il dépend du Gulf Stream. Et le climat tempéré qu'on a là, il dépend du sol et de sa capacité à absorber l'eau. Il dépend de la végétation et des arbres en particulier. Quand on n'a plus l'évapotranspiration, quand on n'a plus suffisamment de végétaux pour maintenir une humidité au sol, on entre dans une période de début de désert. Et si en plus on a des chaleurs qui dépassent les 40 degrés, on était il y a un mois dans les inondations, dans 2 mois on peut être dans la sécheresse. Parce qu'on ne veut pas garder l'eau dans les sols. Les paysans, les vrais, ceux qui ont compris comment fonctionnaient les sols et la terre et le vivant, ceux-là ils le disent. Mais de l'eau, c'est pas au soleil qu'on doit la mettre, c'est dans les sols. On a besoin d'eau, effectivement, mais il faut freiner son écoulement. Il faut arrêter d'accélérer le cycle de l'eau comme on l'a fait depuis 50 ans. C'est plus que se tirer une balle dans le pied. C'est créer le désert. Non, il faut revenir aux fondamentaux, retenir l'eau, freiner son écoulement. D'ailleurs, la loi sur l'eau est très claire là-dessus. Chacun est responsable de l'eau qui tombe sur sa parcelle. Il n'a pas le droit d'en priver son voisin qui est en aval, et il n'a pas le droit de s'en débarrasser en créant des fossés, par exemple, ou un drainage pour l'envoyer le plus vite possible chez son voisin en aval. S'il a une rivière qui passe à proximité, il a le droit d'utiliser l'eau, mais il ne doit pas en priver ceux qui sont en aval, et il ne doit pas prendre tout pour que les autres en amont n'en aient plus.
Il y a eu de fortes précipitations, là, donc on est en mars 2026, et donc beaucoup d'eau est tombée. Les pro-bassines s'en sont emparées en disant, bah, vous voyez, il y a toute cette eau qui va à la mer, là, en plus ça nous inonde, on aurait des bassines, on pourrait la stocker. Or, toute cette eau qui est tombée, ça ne veut pas dire qu'elle a rechargé les nappes phréatiques, elle a juste glissé sur des sols imperméabilisés.
On dit sans se tromper que l'eau qui mettait avant 3 jours à rejoindre la rivière, parce qu'il y avait des talus, des haies qui freinaient son écoulement et qui l'obligeaient à percoler et à descendre dans les nappes, on dit que l'eau qui mettait 3 jours à rejoindre la rivière, aujourd'hui elle y est en 3 heures. C'est une caricature, mais c'est une réalité. Et ceux qui nous disent l'eau qui va à la mer est perdue et toute cette eau qui est tombée, on aurait pu les mettre dans des bassines, c'est vrai que ça serait un peu moins idiot de prendre de l'eau de ruissellement pour la mettre dans des bassines plutôt que de prendre l'eau des nappes. Mais ça, soit ils nous disent que les bassines se remplissent avec l'eau de pluie, ça ils le disent de moins en moins parce que ça devient de moins en moins facile à démontrer.
Parce que c'est pas vrai.
Mais parce que ça n'est pas vrai. Et puis ils nous disent aussi que ça pourrait être justement toute cette eau de débordement, de ruissellement. Mais non, si c'était celle-là, ça serait moins grave, mais il suffirait de refaire le marais mouillé à ce moment-là. Mais si c'était celle-là, le président de la COP de l'eau, j'avais posé la question. Oui, mais prendre cette eau-là, c'est de l'eau de ruissellement, il faudrait qu'elle décante un peu, parce qu'elle vient de ramasser toutes les saletés qu'ils ont balancées dans les champs. Et si on la stocke au soleil, les cyanobactéries et les algues vont arriver encore plus vite que dans de l'eau. Il m'avait dit non, il nous faut de l'eau propre, de l'eau fraîche et de l'eau de dessous. Mais on ne prend pas de l'eau de ruissellement ou de l'eau de débordement. Celle-ci, elle est très utile dans un marais inondé, comme elle était utile pour les crues du Nil, parce qu'effectivement, elle procédait à un autocurage des fossés. C'est Archimède qui avait trouvé ça tout seul. Et en plus, elle amendait les sols. Elle amenait les feuilles, les branches et tout ça directement sur le terrain. Il n'y avait même pas besoin de le faire. Ça se faisait naturellement. Il y a des exemples très intéressants. J'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un qui existe encore, c'est André Pochon, un paysan breton. J'intervenais avec lui dans le cadre d'Eau et Rivières de Bretagne. J'avais 35 ans, donc c'était il y a longtemps. L'État était en train d'encourager les agriculteurs à devenir ou céréaliers ou éleveurs hors sol. À une salle qui était pleine d'agriculteurs, il dit, mais quand même, soyez pas couillons, prenez la luzerne. Il dit, regardez, une vache dans un pré. Devant, vous avez la barre de coupe. Ça fonctionne tout seul. Et derrière, vous avez l'épandeur à fumier. C'est une vache sur la prairie. On vous propose de l'enfermer. Sa merde, il va falloir la ramasser. Puis c'est vous qui allez l'emmener dans le champ. Parce que si vous ne l'emmenez pas dans le champ, vous n'aurez pas la nourriture pour lui emmener après elle. Vous allez devenir dépendant. Vous allez vous faire attacher. Ne faites pas ça. Gardez la polyculture. Laissez vos animaux sur de l'herbe et faites les céréales pour les nourrir. Mais il n'a pas été entendu. Ça, c'était le bon sens paysan. Alors aujourd'hui, il y en a qui font de la luzerne, hein, mais qui la boostent, qui lui mettent de l'engrais, qui l'arrosent 3 fois, 4 fois, pour pouvoir la couper et aller l'apporter aux animaux enfermés dans des stabules. Aucun bon sens là-dessus. C'est difficile de trouver plus bête comme raisonnement. Et on a emmené l'agriculture dans cette impasse-là, pour préserver l'intérêt de quelques-uns.
7000 ans de civilisation, 7000 ans et puis grosse déception, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour en arriver là. Tout ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour en arriver là.
Tout ça pour ça, extrait du disque L'eau qui mord, avant de retrouver Jean-Jacques Guillet, petit-fils de paysan et militant écologiste, aux prises depuis des décennies avec les ravages de l'agro-industrie.
3 milliards d'années d'évolution, 3 milliards d'années, grosse déception.
Le président de la COP de l'eau habite le même village que moi. J'ai été élu avec une étiquette, pas écolo, mais bon, il voyait bien que quand même j'avais un peu les yeux verts. Il y avait 9 agriculteurs et le maire qui était Bélivier de Prince de la Motte Rouge, on était dans l'ancien temps là, hein, qui gérait ses serres. Ils ont bien voulu que je sois élu parce que j'allais faire les comptes rendus, j'allais être le secrétaire, quoi. J'allais m'occuper des papiers. J'ai été réélu maire à 3 reprises parce qu'ils se sont bouffés entre eux. À cette époque-là, il y avait encore des éleveurs, il y avait encore des animaux. Sur les 9, il y en avait encore 5 qui avaient des animaux. Aujourd'hui, sur cette même commune, ils ne sont plus que 3 et essentiellement céréaliers. Mais ils ne sont plus dans le conseil. Ils ne sont plus représentatifs de la population. Ils ont un peu réussi, quoi. Ils ont bouffé leurs voisins, ils ont des chevaux, ils ont des prairies pour les chevaux. Hein. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture, quoi. Ils ont perdu le pouvoir, quand même, quelque part. Enfin, c'est le cas sur ma commune, mais c'est malheureusement pas le cas partout. Ils sont pas idiots, pas tous. Il y en a quand même, ils sont un peu lourds.
C'est une erreur de croire ça.
Non, il faut pas croire ça. Mais quand on s'est fait manipuler, quand ça dure depuis des années, prendre conscience qu'on s'est fait avoir et oser l'avouer, c'est pas si facile que ça quand même. Hein. Bon. Bon, c'est difficile d'avoir une conversation avec eux. Ils vont avoir le discours qu'ont beaucoup de nos élus. Ce qui compte, c'est l'économie. Ce qui compte, c'est le PIB, l'exportation, la machine tourne à plein et qu'on sorte du pognon pour après essayer d'éponger la misère. Ils se raccrochent à ça. Sans eux, l'économie va s'effondrer. Et ce n'est pas tout à fait faux. On a mis en place un système qui fait qu'aujourd'hui, s'arrêter du jour au lendemain, ça ne sera pas possible. C'est des emplois, c'est un fonctionnement, c'est des entreprises, c'est tout un système. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour les déchets, c'est vrai pour tout. Quand on a mis en place un réseau des réseaux de distribution, ça a amené du progrès quand même. Pas seulement de la nourriture pas chère et peut-être pas toujours très bonne, mais ça a permis à des gens qui ont peu de revenus, c'est l'argument principal, quoi. Pouvoir aller faire leurs courses, on leur donne le minimum et ils peuvent vivoter. Casser ça pour dire, ben non, on essaie de mieux partager, on essaie de revenir encore une fois à quelque chose de plus, j'allais dire, raisonnable. Il y aura peut-être un peu moins de riches et sans doute un peu moins de pauvres, mais on va essayer d'égaliser les choses. Ça veut dire qu'il faut fermer un certain nombre d'usines, arrêter des camions, revoir toute l'économie, quoi.
Je l'ai lu dans le livre des soulèvements de la Terre, Première secousse. Il y a eu des exemples dans l'histoire. 1789, bon, qui est la révolution bourgeoise qu'on sait, hein, on a changé d'oppresseur. Une monarchie du sang a été remplacée par une monarchie de l'argent. Mais à la base, crise frumentaire, et puis des états généraux, et c'est une révolte foncière aussi. Bah, les soulèvements, Bastille non merci, tout ça, c'est aussi une révolte agricole et une révolte foncière. Et donc je vais utiliser un grand mot là, il faudra entamer un processus révolutionnaire.
La question des terres, complètement, mais c'est un problème de propriété. Quand on était sur une gestion des communaux, les gens avaient des animaux et puis qu'on lâchait les animaux sur une grande prairie qui appartenait à la commune. Dans le marais mouillé, là, moi où je suis, là, toutes les communes avaient leurs marais communaux. Donc cette gestion commune, en commun, de proximité, il faudra revenir à ça. Il faudra revenir à ça. Mais ça veut dire qu'on remet en cause la propriété. Si on veut protéger les captages, c'est quand même les fonds de vallée, là où ils font du maïs, où ils retournent les prairies, et c'est l'eau potable. Et donc si on ne veut pas arriver à un moment donné où on n'aura plus ni la quantité ni la qualité, eh bien oui, en priorité, des villes l'ont fait, hein, Munich, Berlin et même Paris maintenant, hein, des collectivités qui achètent des hectares pour dire, bon ben si, on va pas laisser ça reprendre par la forêt, mais on prend des agriculteurs qui travaillent proprement et on remet de la prairie, on fait du potager, on nourrit la ville, mais en même temps, on protège l'eau potable et on protège notre environnement et notre milieu. Mais ça, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est d'autorité, il faudra dire non. C'est pas raisonnable. Ce que tu fais, on t'a entraîné à le faire, tu maîtrises plus rien du tout, tu vas plus faire ça. J'ai dit un jour que j'étais en colère, si on voulait défendre l'intérêt général, ces agriculteurs-là qui nous empoisonnent la terre, qui nous empoisonnent notre avenir, il vaudrait mieux qu'on les paye à rester chez eux correctement, on s'y retrouverait. Parce que quand on sait que ce modèle agricole pour essayer de rattraper le coup derrière, il nous coûte 10 fois plus cher que s'il n'existait plus, on aurait intérêt à les payer à ce qu'ils restent chez eux. La première des choses à faire, ça serait, un, de leur dire maintenant, on te paye, tu restes là. Là-bas, non, tu vas plus cultiver là-bas, parce que là-bas, tu vois, c'est une zone où il y a de l'eau dessous, on veut la préserver, donc, ou alors, si tu veux, bon, oui, avec un contrat, et puis on regarde ce que tu fais, et on te paye correctement pour un travail qui empoisonne pas tout le monde.
Toi le premier.
Toi le premier, et pas notre avenir. C'est vrai que ça risque d'être difficile, mais il faut avoir le courage politique à un moment donné de commencer. Ça commence. Moi, je trouve dans les soulèvements et dans tous ces jeunes, enfin, je connais la plupart de ceux qui ont écrit le bouquin et même ceux du film, et c'est dommage parce qu'il y a tellement d'intelligence, de générosité, de spontanéité, de connaissance, et du monde paysan, et de l'histoire des paysans, et de l'environnement en général, on ne pouvait pas garder tous les témoignages. Ça aurait été beaucoup trop long. Mais c'est quand même frustrant, parce qu'il y a de sacrées pointures là-dedans. Il ne faut pas donner les noms, parce que sinon, on les emmène devant le tribunal. Mais il y a de sacrées femmes et de sacrés hommes qui méritent véritablement d'être écoutés, et entendus surtout. Parce qu'ils ont un autre niveau de culture que des sénateurs que je nommerai pas, ou des députés qui nous baladent depuis des années, qui ne méritent pas d'être élus. Un des premiers ménages, c'est celui-là qu'il faut faire. C'est aller voter, aller bien voter, aller voter pour des jeunes qui tiennent la route. Il y en a. Ce qui me désole, mais bon, ça évolue, mais dans les soulèvements, beaucoup, ils vont même plus voter, parce qu'ils sont dégoûtés. C'est trop longtemps que ça dure, quoi. Ils ont perdu espoir. puis voir à quel point aussi c'est plus les politiques vraiment qui ont la main. On voit des guignols manipulés par les lobbies. Et Duplon en est un. Sarkozy en était un super. Bon, un petit guignol en plus, lui. Il y a du ménage à faire.
Pas bien de critiquer le physique.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire autrement quand même. Quand on est un roquet et puis qu'on veut japper, puis qu'on veut jouer les pitbulls, je ne peux pas le supporter, celui-là. Quand j'ai été élu, la secrétaire a ramené de la préfecture le portrait du président. Et il fallait l'accrocher dans la mairie parce que ça se faisait. Je n'ai jamais voulu l'accrocher. On l'a monté aux archers dans la poussière et je n'ai pas voulu le mettre. Il a fallu expliquer que la République, c'était un drapeau, c'était une Marianne, c'était un écusson, mais ce n'était pas la tête du président, et surtout pas celui-là.
Conclusion, ce serait avant que ce qu'on appelle la nature, qui fait ce qu'elle a à faire, se ressaisir avant que les éléments nous imposent de toute façon la catastrophe.
La nature nous survivra, hein. La nature s'adaptera, elle a du mal en ce moment, hein. Ça va trop vite. Les fourmis nous survivront, la nature nous survivra. On n'est rien du tout là-dedans. On ne l'a pas compris. On imagine qu'on maîtrise tout, on ne maîtrise rien. On n'était pas là les premiers. Quand on représente l'humanité sur une pendule, c'est même pas ridicule, c'est inexistant. Et on a été capable, en moins d'un siècle, de tout bousiller. Et je suis de ceux qui étaient là au moment de ce siècle-là. Il n'y a pas de quoi être fier. On a tout bousillé en... depuis les 30 Glorieuses, quoi, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas si vieux que ça. Hein. On a été capable d'empoisonner le ciel, on a été capable d'empoisonner les sols, on a été capable de créer le nucléaire avec des capacités de destruction de la Terre entière. Et on pourrait être fier de nous. Il n'y a pas de quoi être fier, non.
Peut-être une révolution à faire dans nos têtes, c'est d'arrêter de croire qu'on est en haut d'une pyramide et que tout ce qui est vivant nous est inféodé. On est interdépendant du reste du vivant. Sans le papillon, sans l'arbre et sans tout le reste, on meurt.
Chaque fois qu'une espèce disparaît, et en ce moment, c'est plus que d'actualité, il y a même une grande accélération, hein, que ce soit au niveau des végétaux, des oiseaux, des mammifères. Chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est un bout de nous qui disparaît avec elle. On fait partie de ce tout. On est un tout petit bout de ce tout. On n'est pas ceux qui sont les plus aptes à survivre. On est même certainement, pour sûr, les plus fragiles. Quand on voit disparaître les alouettes ou qu'on voit disparaître des espèces de végétaux, c'est plus qu'un bout de nous qui disparaît. Sans la photosynthèse, il n'y a pas d'air respirable. Sans la photosynthèse, il n'y a pas de mi-climat tempéré, il n'y a pas d'évapotranspiration, il n'y a pas d'évaporation, il n'y a pas d'humidité dans l'air. Si on est dans un air trop sec, on a compris que dans le désert de Gobi, ce n'est pas le top. L'Amazonie, il y a trop d'humidité. Le tempéré, il dépend essentiellement du végétal et de la présence du végétal. On est passé dans le basculement, c'est-à-dire que la forêt amazonienne rejette plus de carbone qu'elle nous renvoie d'oxygène. La mer, l'océan, avec le réchauffement et le sel, le grand basculement, c'est vrai à tous les stades.
7000 ans de civilisation, 7000 ans et puis, grosse déception. Tout ça pour ça, tout ça pour en arriver là.
Et voilà les amis, il est peut-être encore temps de se ressaisir. C'est sur ce souhait que s'achève cette émission à télécharger via polemixetlavoixoff.com. Avant qu'on se retrouve très prochainement sur votre radio encore libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut !